France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's and in the house.
France Inter. Le 18-20. Christelle Robien.
Un jour dans le monde, un premier jour en 2025, déjà un quart de siècle de passé dans un monde de plus en plus incertain, secoué par de multiples crises, des guerres, des ingérences, des influences via les nouvelles technologies, sans compter l'enjeu du changement climatique. Et au milieu, un homme, Donald Trump. Son élection change la donne et elle raconte les questions qui travaillent en profondeur nos opinions publiques, mais c'est aussi un risque, Trump. Écoutez ce qu'en pense le prix Nobel d'économie, l'américain Daron Acemoglu. Il a répondu en exclusivité aux questions de France Inter.
Bien sûr que la situation est pire qu'il y a un an. Vous savez, la période actuelle est vraiment très sombre. Trump est une menace à la fois pour la démocratie américaine et pour l'ordre mondial. Il a d'ailleurs déclaré qu'il allait se débarrasser de toutes les régulations qui encadrent l'intelligence artificielle et les crypto-monnaies.
Alors que nous réserve 2025 avec cet homme-là, mais pas seulement, le prédictif est toujours assez périlleux, on va éviter de donner des réponses définitives, mais on va rappeler les grands enjeux et les questionnements du moment. Bonsoir Pierre Aski.
Bonsoir Christelle.
Les auditeurs de la matinale de France Inter vous connaissent bien, la géopolitique à 8h20, c'est vous. Merci d'avoir en quelque sorte, Pierre, changé de fuseau horaire pour venir ce soir. Alors pour résumer grossièrement, 2025 c'est le monde selon Trump.
Oui, parce qu'il va être le personnage dominant dans 3 semaines, et il l'est déjà. Il faut savoir que c'est totalement inhabituel ce qui se passe, c'est-à-dire que Trump a déjà pris la place de Joe Biden, il intervient directement dans un certain nombre de dossiers, à commencer par l'Ukraine, alors qu'il n'est pas en fonction, ce qui est totalement inhabituel dans le décorum américain, où on respecte quand même ce formalisme. Et donc, sa personnalité, son style, son entourage, on en a beaucoup parlé.
De son cabinet.
Et la
assez
présence.
Assez hétéroclite, on va dire.
Et quand même le personnage d'Elon Musk qui est central dans cette affaire. Tout ça augure d'un début, en tout cas, en fanfare. C'est-à-dire que Trump va vouloir mettre sa marque, son empreinte, très vite sur la marche du monde, à sa façon. Et c'est ça qui fait trembler un peu dans les chancelleries en ce moment, parce que ça augure de jours difficiles.
Alors on va commencer par les États-Unis. En quoi son deuxième mandat s'annonce-t-il différent du premier ?
Alors déjà parce qu'il a l'expérience du premier, il sait ce qu'il n'a pas pu faire pendant le premier, parce qu'il y avait, vous savez, on appelait ça à l'époque les adultes dans la pièce, des généraux, des PDG d'entreprise, etc., qui avaient été placés au poste clé et qui le freiner dans ses ardeurs, il n'y aura pas ça cette fois-ci, parce qu'il connaît le système, et une fondation, le projet 2025 dont on a beaucoup parlé pendant la campagne, qui est un think tank conservateur, a fait une liste de tous les postes à pourvoir. Depuis des mois, il s'y prépare pour remplacer les gens qui pourraient être des obstacles sur la route de Trump. La deuxième raison, c'est qu'il contrôle les deux chambres de l'Assemblée, même si c'est pas donc le Congrès et le Sénat, même si c'est pas à 100% dans la mesure où il y a une partie des Républicains qui lui résiste. On l'a vu il n'y a pas longtemps sur un vote concernant le shutdown, l'absence de budget pour les États-Unis. Mais malgré tout, il a la Cour suprême qu'il a déjà façonnée à sa manière lors de son premier mandat. Il a le pouvoir législatif et il a un exécutif fort.
Bon, et sa priorité, c'est de frapper fort contre l'immigration.
Alors, le plan immigration est terrifiant, il faut bien le dire. Le Wall Street Journal a fait un calcul il y a quelques jours sur ce que coûterait la mise en œuvre de ce programme d'expulsion de millions d'immigrés clandestins, illégaux, aux États-Unis. C'est en dizaines de milliards de dollars. Avec des gens qu'on irait chercher chez eux, qu'on mettrait dans des camps pendant des mois avant de pouvoir les expulser. Bref, c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences humaines, sociales, politiques, et changer la nature même du climat, parce qu'on parle de faire intervenir l'armée américaine. Trump a évoqué la possibilité de faire appel à l'armée pour faire ce programme. Donc tout ça est une dimension peut-être brutale qui veut marquer les esprits. Mais il y a tout le reste. Il y a le plan d'Elon Musk de couper à la hache dans les dépenses.
J'allais dire à la tronçonneuse,
oui,
façon Javier Milei.
mais dans les dépenses fédérales.
Et puis il y a la dérégulation aussi.
Oui, mais il faut savoir que l'influence qu'il y a autour de Trump aujourd'hui, c'est celle de ces géants de la tech. Musk en est la figure de proue, évidemment, mais il y a beaucoup de gens dans cette catégorie qui sont aujourd'hui à l'affût de l'opportunité extraordinaire que leur donne leur puissance économique et technologique dans un monde dont ils veulent se débarrasser de toute régulation et de toute entrave à leur développement. Donc c'est ce monde-là qui se prépare.
Et au niveau international, il veut faire grimper les tarifs douaniers. Est-ce qu'il faut se préparer à une forme de guerre économique ?
La logique de Trump sur le plan international, c'est l'hégémonie américaine, ça on l'avait déjà, moins le multilatéralisme. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'alliance, il n'y a plus de tractation avec les autres, comme l'Amérique l'a fait depuis des décennies, depuis la Seconde Guerre mondiale, en fait. Trump, c'est mes conditions, vous vous pliez ou je vous écrase. Mm-hmm. C'est un peu ça le risque, y compris, et à commencer par l'Europe, qui est censée être l'allié des Américains, allié parfois difficile, mais en tout cas, pas un allié dont on peut attendre le pire.
Alors parlons des guerres à présent, parce que c'est là que tout se joue aussi. Il avait dit à quelques jours de l'élection présidentielle, nous voulons la paix sur Terre. Il est très pragmatique, il veut des résultats rapides. Donc il commence par quoi ? L'Ukraine, on se souvient que Donald Trump avait dit qu'il réglerait le problème en 24 heures à son arrivée à la Maison-Blanche. On a quand même l'impression qu'il est un peu moins péremptoire.
Oui, parce que évidemment, c'était un slogan de campagne pour montrer sa supériorité sur Kamala Harris. Aujourd'hui, il est déjà engagé dans des tractations avec la Russie.
Il a déjà commencé.
Il a déjà commencé et on l'a vu à Paris en marge de la réouverture de Notre-Dame avec Volodymyr Zelensky à l'Élysée. Donc ces grandes manœuvres autour de l'Ukraine ont commencé et elles sont plus compliquées que prévu. Il devait avoir un appel téléphonique avec Poutine cette semaine qui a été annulé parce que les conditions que met Poutine pour un dialogue avec l'Ukraine sont inacceptables même pour Donald Trump. Elles le sont évidemment pour l'Ukraine, mais elles le sont aussi pour Donald Trump. Et donc, on peut se retrouver dans une situation très paradoxale en 2025, qui est que, et Donald Trump l'a déjà prévenu, en disant « si Poutine ne veut pas négocier, j'aiderai l'Ukraine plus que ne l'ont fait mes prédécesseurs ». C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un Trump qui devient le plus fervent défenseur
de
l'armée de Volodymyr Zelensky pour punir Poutine de ne pas avoir cédé à ses injonctions. C'est assez paradoxal. C'est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, c'est une forte possibilité. Et le règlement que Trump souhaite en 2025, il est encore loin du compte.
Autre dossier beaucoup plus complexe, la guerre au Proche-Orient. Benjamin Netanyahou ne lâche rien. Le cessez-le-feu est fragile avec le Liban. Gaza est pilonné tous les jours, aujourd'hui encore. Il se bat contre les alliés de l'Iran. Comment ces deux hommes se parlent-ils ? Quel est le niveau de confiance entre les deux ?
Alors, paradoxalement, ils s'entendent très bien dans la mesure où ils partagent une même vision du monde. Et Netanyahou appartient à cette catégorie des hommes forts que Trump adore.
Oui.
Mais il y a eu des contentieux entre eux. Et en particulier, Trump en a beaucoup voulu à Netanyahou parce qu'il a félicité Joe Biden après son élection, alors que Trump continuait à proclamer qu'on lui avait volé l'élection. Et il l'a attaqué publiquement, Netanyahou, à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, tous les rapprochent et tout plaident pour une entente entre ces deux hommes.
Mais l'entente, elle peut aller jusqu'où ?
Alors, et c'est toute la question. Le vrai sujet, c'est l'Iran.
Oui.
Netanyahou veut profiter de ses succès. Il a écrasé le Hezbollah, il a écrasé la bande de Gaza. Il est aujourd'hui maître du jeu militaire dans cette région. Mais il y a un obstacle sur sa route, c'est la possibilité que l'Iran devienne une puissance nucléaire. Mmh. Il veut à tout prix frapper l'industrie de la préparation de cette bombe atomique iranienne. L'administration Biden l'en a empêché. Autant Netanyahou peut faire ce qu'il veut à Gaza, autant il doit composer avec les Américains pour un gros morceau comme l'Iran. Il espère et il a demandé que Donald Trump lui donne le feu vert pour attaquer l'Iran. Est-ce que Donald Trump le fera ? C'est pas sûr parce que Trump déteste le régime des Mollahs, c'est évident, mais c'est aussi quelqu'un qui a peur de la guerre. Il n'a pas déclenché de guerre, il s'en est même vanté, ça a été un de ses arguments de campagne, et il préfère imposer son hégémonie sous d'autres formes.
Bon, autre point d'inquiétude, Pierre, ce soir, c'est l'Europe. Une Europe en perte d'influence, avec un couple franco-allemand plus déstabilisé que jamais. Le New Yorker a même fait sa une la semaine dernière sur The Fall of France, la chute de la France.
Oui, c'est effectivement, cette une est terrible et elle devrait faire réfléchir aussi la classe politique française qui ne tient pas compte de la situation internationale dans laquelle se trouve la France. Mais c'est vrai que c'est le pire moment. Au moment où Trump arrive et au moment où il faudrait que l'Europe soit unie autour d'un projet et pour se renforcer, les deux principaux pays européens, la France et l'Allemagne, sont en crise politique intérieure. Les divisions européennes sont flagrantes. On a quelqu'un comme Robert Fico, le Premier ministre de Slovaquie, qui est devenu l'allié numéro un de Poutine. On a Orban qui l'était déjà. Bref, on a une absence de consensus européen autour des enjeux qui devraient être aujourd'hui ceux de la défense de l'Europe.
Et la sécurité.
Face à un allié, certes toujours un allié, mais sur lequel on n'est pas sûr de pouvoir compter pendant longtemps.
D'ailleurs, Emmanuel Macron a dit hier soir dans ses vœux que l'Europe ne devait plus déléguer à d'autres sa sécurité et sa défense.
Oui, mais c'est un discours qu'on entend depuis des années, sans que l'Europe... L'Europe a fait des progrès, c'est incontestable, depuis le début de la guerre en Ukraine. Elle a une action un peu plus forte sur les questions de défense, mais on est très loin du compte. Et aujourd'hui, face à un Trump qui va procéder par diktat avec les Européens, on est très, très largement démunis et on n'est pas à la hauteur, en tout cas, de ce qu'il faudrait.
Donc l'Europe affaiblie en termes de sécurité, qui menace de décrocher économiquement et qui a déjà décroché dans le domaine de la tech. Écoutez ce qu'en pense Alex Karp, le directeur général de Palantir. C'est l'une des plus grosses entreprises américaines de services et de gestion de données.
L'Amérique est aux prémices d'une révolution dont nous sommes moteurs. La révolution de l'intelligence artificielle. Ça devrait même s'appeler la révolution américaine de l'intelligence artificielle. Toutes les entreprises qui pèsent sont dans ce pays. Les capitaux de ces entreprises sont dans ce pays. Il n'y a actuellement aucun autre endroit où faire de la tech à cette échelle, à part en Amérique. L'Europe a choisi de réguler et de sous-estimer la scène de la tech. Tout le monde veut venir ici. Et la communauté tech est en plein essor.
Le constat est terrible, Pierre-Esquy.
C'est terrifiant, et alors c'est très arrogant, évidemment, d'entendre ces phrases, mais c'est le reflet de la réalité. Toutes les entreprises de la technologie sont effectivement américaines, et elles sont aujourd'hui autour de Donald Trump. Et c'est là qu'il y a une sorte de hold-up sur le capitalisme américain qui est fait par ces nouvelles entreprises. Les Elon Musk, Peter Thiel et quelques autres sont en train de faire main basse sur le pouvoir économique américain, en s'appuyant sur Donald Trump. Et les rapports de force internationaux en dépendent, en découlent. Demain, la Commission européenne voudra faire, comme elle l'a fait par le passé, donner des grosses amendes à Google ou à Facebook pour des pratiques discutables, vous aurez la réaction de Washington et elle sera brutale.
Pierre, pour finir, quelles sont les raisons d'espérer en 2025? J'aimerais bien que vous nous en donniez quelques-unes. Parce que là, on voit que tout est déstabilisé quand même.
On peut toujours espérer un sursaut européen. Aujourd'hui, c'est le 1er janvier, c'est une nouvelle présidence tournante de l'Europe. C'est Donald Tusk, la Pologne, le Premier ministre polonais qui prend la présidence. La Pologne est aujourd'hui un pays qui est en capacité d'être un moteur. C'est assez paradoxal parce qu'on a l'impression encore de ces pays de l'Est qui sont en retard, etc. La Pologne, pas du tout. Elle a une croissance réelle depuis des années. Elle investit 4,5% de son PIB dans la défense. La France, c'est 2%. Et elle a un gouvernement qui est beaucoup plus conscient des enjeux par la proximité géographique de la zone de conflit ukrainienne. Et donc, est-ce que Donald Tusk est capable d'entraîner l'Europe dans ce sursaut? Ça sera peut-être une des choses à suivre, une des choses positives à suivre.
Merci infiniment, Pierre Esquy. On vous retrouve demain matin, comme d'habitude, à votre horaire.
Merci.
8h20, merci. La suite, c'est le reportage d'un jour dans le monde, direction Birdsville en Australie, l'histoire d'un flic en plein désert, on se croirait dans un western. Et pour aller ensemble jusqu'à 19h, Kevin Dufraîche sous les radars.
Au Venezuela, une pianiste contre le président Maduro.
Le Monde à 18h50. Bonsoir Nathanaël Charbonnier.
Bonsoir. Il n'y aura plus aucun militaire français en Côte d'Ivoire ni dans tout l'ouest de l'Afrique en 2025.
Et comme c'est mercredi, c'est le cinéma en VO avec vous, Corinne Pélissier. Bonsoir.
Bonsoir. Un film à l'énergie très rock, Bird, sur l'Angleterre, délaissée pour compte par la très brillante cinéaste Andrea Arnold.
A tout de suite. Et j'ai un petit cadeau pour vous et pour tous ceux qui nous écoutent. Un single tout frais, tout chaud, sorti pour la soirée du Nouvel An. Andrea Laszlo de Simone et celui qui nous avait envoûté avec la BO du Règne Animal. Voici en exclusivité sur France Inter Un Momento Migliore, un moment meilleur, c'est ce que je vous souhaite pour 2025.
Ho perso il cuore d'un amico vero. Ho perso tutti e non ho più nessuno. Ho dato amore ma non sono stato sincero ed ho mentito senza rimorso alcuno. Ho avuto un padre, dico un padre vero, che mi ha mostrato cosa vuol dire essere uomo, ma ho scelto di voler restare bambino. Di non seguire l'esempio di nessuno. Ed ora non so più chi sono. Ho dato amore ma non sono stato maturo. E senza amore dovrò vivere. Le ho regalato tutto ciò che avevo, ma quel che avevo poi non era molto. E ho preso tutto derubando il destino, ma il destino non è preda facile. Forse ho mentito sempre, o forse sono troppo sincero, e da una fragile mente, o sono solo immaturo, o più probabilmente non voglio pensare al futuro, perché sono quasi sicuro che sbaglierò per sempre. Nessuno, nessuno, nessuno ha mai avuto un momento migliore. Nessuno, 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 nessuno.
Troisième volet de la série de reportages d'un jour dans le monde en Australie, c'est une rediffusion. Aujourd'hui, direction Burtsville, une petite ville située dans l'état du Queensland. Burtsville est considérée comme l'une des plus isolées de cet immense pays. Elle est à plus de 1600 km de Brisbane, au milieu du centre aride de l'île continent. Seuls une centaine d'habitants vivent dans ce lieu d'apparence si inhospitalier. Parmi eux, un policier, tout seul, pour assurer la sécurité de Burtsville et au-delà, sur un territoire désertique plus vaste que le Royaume-Uni. Le policier le plus solitaire au monde, il s'appelle Stéphane Purcell. Et le reste, c'est Grégory Pless et Léo Roussel qui racontent.
Comme tous les matins, Stéphane Purcell fait le tour de la ville en voiture. Et comme il n'y a pas de standardiste au commissariat, c'est lui qui prend directement les appels pendant sa patrouille.
Police de Birdsville, Stéphane à l'appareil.
Bonjour Stéphane, je m'appelle Peter. J'ai essayé de vous appeler plus tôt. Je voulais savoir si le désert de Simpson était accessible depuis Birdsville.
Non, je crois que c'est fermé pour l'instant par mesure de sécurité. Il a plu il y a 2 jours.
Ok Stéphane, merci beaucoup de m'avoir répondu.
Cet environnement unique, inhospitalier et surtout gigantesque, c'est le territoire sur lequel Stéphane doit assurer, seul, la sécurité.
Ma zone de couverture fait 294 000 km². À l'ouest, il y a le désert de Simpson. Il y a 168 km jusqu'à la frontière du territoire du Nord. Mais il faut compter 8 heures de route à travers des dunes de sable. Et au sud, il y a la célèbre piste de Birdsville. C'est une route de terre. Il n'y a quasiment pas de réseau téléphonique. En cas de problème, ça peut prendre 2 heures pour arriver sur le lieu d'un accident de voiture. Et plus encore en cas de sauvetage dans le désert.
Et les choses peuvent même devenir encore plus compliquées si un facteur sur lequel Stéphane n'a aucune prise, la météo, entre dans la danse.
C'est Mère Nature qui décide de tout. On doit juste s'y adapter. Mais heureusement, dans cette merveilleuse petite ville, tout le monde y met du sien et aide comme il peut.
Birdsville, on en fait très vite le tour. Dans cette bourgade d'une centaine d'habitants, on trouve un aérodrome en plein centre-ville, un hôtel qui fait aussi office de pub, une boulangerie célèbre dans tout le pays pour ses tourtes au chameau et une roadhouse, un établissement typique de l'outback australien qui est en fait une station-service doublée d'un magasin d'alimentation. La propriétaire, Jenna, contrairement à Stéphane, a toujours vécu à Birdsville et elle estime qu'il a parfaitement su s'adapter.
Ce n'est pas évident d'être policier dans une petite communauté. Il faut avoir une personnalité qui vous permet d'être à la fois un ami, mais aussi celui qui fait respecter la loi. C'est un équilibre délicat, mais il s'en est remarquablement bien sorti et ça fait presque 10 ans qu'il vit ici maintenant. Donc on pourrait quasiment le considérer comme un local.
Précisément, cela fait 8 ans que Stéphane est le policier de Birdsville. Un poste que cet officier qui a longtemps travaillé dans des grandes villes du littoral convoitait depuis des années.
Mon père était policier dans une zone rurale de Tasmanie. Ça m'a toujours tenté. Et j'adore. Ça a été une expérience formidable. Et je pense que quiconque pratique cette forme de police, non seulement devient un meilleur policier, mais aussi une meilleure personne.
Stéphane, en tout cas, est très apprécié de la communauté locale. Ainsi, Pita, la patronne du café de la ville, et son mari ne tarissent pas d'éloges à son sujet.
Il est très important, on ne s'en sortirait pas sans lui.
On ne pourrait pas faire tourner la ville sans lui. C'est une légende vivante. Il part secourir des gens perdus dans le désert, il maintient l'ordre dans cette ville et il fait tout son possible pour que tout roule. On adore Stéphane.
Et en plus, il a toujours le sourire aux lèvres.
Stéphane travaille également très étroitement avec le dispensaire de la ville. Une aide précieuse selon Jess, elle est infirmière.
Stéphane est très important à la clinique. On s'appuie énormément sur lui pour nous aider. On gère aussi la seule ambulance de la ville, donc on compte beaucoup sur lui pour nous aider s'il y a des personnes malades dans le désert et s'il faut les récupérer.
Seulement voilà, l'année prochaine, Stéphane aura 60 ans et il devra prendre sa retraite. Avec sa femme, il quittera donc Birdsville. À regret.
On aimerait rester, mais on a un petit-fils qui est atteint d'une maladie, donc on va aller s'occuper de lui. Mais je pense qu'on continuera à voyager dans des endroits comme ici et qu'on reviendra.
D'ici là, la police devra lui trouver un remplaçant. Malgré l'isolement du poste, la tâche ne s'annonce pourtant pas très difficile. Plusieurs candidats se sont d'ailleurs déjà manifestés pour reprendre le titre d'officier de police le plus seul au monde.
Le Lucky Luke du désert australien, Happy Lonesome Cowboy. À demain pour le dernier volet de cette série. Merci à Grégory Pless et Léo Roussel. L'actualité passée sous les radars mais qui n'a pas échappé à Kevin Dufraîche. Nous sommes d'abord au Népal, où il y a trop de tigres.
Oui, c'est en tout cas l'avis du Premier ministre Khadga Sharma, qui, vous l'entendez, a fait rire son auditoire sur la question il y a quelques jours, notamment parce qu'il propose d'offrir des félins à des pays amis, comme il dit, pour s'en débarrasser. Ces 10 dernières années, la population de tigres a triplé au Népal à la faveur d'une politique de protection. On en compte aujourd'hui un peu plus de 350, mais c'est trop, dit le Premier ministre. Il n'est pas judicieux de protéger protéger les tigres en mettant en danger des vies humaines, dit-il. Et s'il traite la question avec légèreté, les ONG de défense de l'environnement ne sourient pas parce que Khadga Sharma estime que s'il y a trop de tigres, c'est parce qu'il y a trop de forêts. Au Népal, 47% de la surface du pays, 30% serait suffisant, d'après lui. Les associations craignent qu'il lance une politique de déforestation complètement opposée à celle menée depuis 30 ans dans le pays.
Nous voici au Venezuela avec une prise de position.
Oui, celle de Gabriela Montero. C'est l'une des pianistes les plus connues du monde. Elle est vénézuélienne et dans une interview accordée au Guardian, elle appelle aujourd'hui au boycott de l'orchestre symphonique Simon Bolivar, orchestre national du Venezuela, qui doit faire une grande tournée en 2025 pour fêter les 50 ans de ce que l'on appelle là-bas El Sistema. C'est un programme public unique au monde qui donne accès à la musique aux enfants de tout le pays. Sauf que c'est une organisation politique dirigée depuis le bureau du président, selon Gabriela Montero, le président Nicolas Maduro, qui a nommé deux membres de sa famille au conseil d'administration, par exemple, il y a quelques années. La pianiste parle de propagande et demande aux salles de déprogrammer la formation qui doit se produire, entre autres, à la Philharmonie de Paris dans quelques semaines. Une manière de dénoncer la réélection contestée du président Nicolas Maduro en juillet 2024, accusé d'avoir manipulé le scrutin et de museler l'opposition.
Enfin, nous sommes au Royaume-Uni, dans les tribunes des stades de foot.
Oui, on en parlait dans le journal de 18h, c'est une vraie religion. On joue même au foot le 1er janvier, Brentford-Arsenal en ce moment même. Pour soutenir son équipe préférée en tribune, les supporters chantent. Ils ont des écharpes et des maillots, bien sûr, floqués au nom des plus grandes stars. Sauf que de plus en plus d'Anglais portent des contrefaçons, des faux maillots, parce que les maillots officiels sont trop chers. Oui. Selon le média et site de Paris Footy Accumulators, les recherches sur Internet de faux maillots en Angleterre ont bondi de 78% juste avant Noël. C'est 78% de plus par rapport à 2023. Ça concerne surtout les tenues pour enfants. Par exemple, un maillot taille enfant de Liverpool, le leader du championnat anglais, c'est 60 livres sur la boutique du club. Ça fait plus de 70 euros. Le maillot enfant de Manchester United a été le plus recherché devant ceux d'Arsenal et Newcastle.
Merci Kevin. On reste chez les anglo-saxons, mais on traverse l'Atlantique pour retrouver l'américaine Candy Staton, un mélange de soul et de country qui fleure bon les années 60. I'm just a prisoner sur Inter.
I'd rather be lonely than to lose you. I'd rather be blue than to be all.
Prisoner de Candy Staton.
How dare you? world has changed.
Christelle Rebière. Le 18-20.
Le Monde à 18h50, direction le Sahel et l'Afrique de l'Ouest, où il ne restera plus grand-chose de la France après la présidence d'Emmanuel Macron. Dernier départ annoncé, celui de la base militaire française qui était basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nathanaël Charbonnier.
Oui, on pouvait s'y attendre, mais l'histoire s'accélère véritablement, puisque la base militaire française d'Abidjan va être rétrocédée à la Côte d'Ivoire en janvier. Cette annonce, on la doit au président ivoirien, Alassane Ouattara, qui expliquait hier soir que cela ne se fait conformément à la politique de réaménagement du dispositif militaire français en Afrique, réaménagement souhaité d'ailleurs par le président français Emmanuel Macron. Il faut savoir que cette base accueillait un millier de soldats qui avaient pour mission de lutter contre les djihadistes qui attaquent régulièrement l'ouest de l'Afrique. Mais si l'histoire s'accélère ainsi en Côte d'Ivoire, c'est aussi pour des raisons de politique intérieure. L'élection présidentielle aura lieu en octobre et Alassane Ouattara, 83 ans, vieux crocodile de la politique, sent bien que cette base française peut devenir un problème durant la campagne électorale qui s'annonce, car la Côte d'Ivoire n'échappe pas à la tendance qui veut que la France n'ait plus la bienvenue dans la région. Le président ivoirien coupe donc la branche qui pouvait lui apporter des soucis, et il le fait suffisamment tôt pour que cela n'entraîne pas une cassure entre son pays et le nôtre.
Une spécificité ivoirienne qui tranche avec ce qui s'est passé dans le reste de la région, où la France a été chassée, on peut le dire, durant la présidence d'Emmanuel Macron.
Oui, le rappel historique fait mal, en effet, même si le sentiment anti-français actuel se faisait déjà sentir avant l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Mais il n'empêche, juin 2021, départ du Mali, c'est là que stationnait la force Barkhane. Février 2023, retrait total des forces françaises à Ouagadougou, qui intervenait au Burkina Faso depuis 15 ans. Décembre 2023, les derniers militaires français quittent le Niger. La France était présente militairement dans ce pays du Sahel depuis 2014. Elle a compté jusqu'à 1500 soldats. Décembre 2024, c'était il y a quelques jours, départ d'une première base militaire au Tchad. La deuxième base, qui se trouve près de N'Djamena, devrait fermer dans les semaines qui viennent. Mais ce n'est pas terminé. Cette année, la France va aussi quitter le Sénégal. Cela a été confirmé hier soir par le nouveau président sénégalais.
Et il n'aura fallu donc que 5 ans pour que la France quitte l'Afrique de l'Ouest, actant véritablement la fin de ce qu'on appelait la France-Afrique.
Et quel retournement ! Il faut se souvenir de François Hollande en 2013 au Mali, qui parlait du jour du plus important de sa vie, 3 semaines après le déclenchement de la fameuse opération Serval destinée à bloquer l'avancée des djihadistes vers Bamako. Tout cela semble être un lointain souvenir, avec une responsabilité pour Emmanuel Macron, qui en voulant changer d'approche a aussi cassé la machine. Or l'Afrique, c'est comme partout dans le monde, pour obtenir une complicité, eh bien, il faut respecter certains codes. Dans le cas présent, il y a eu des malentendus, des erreurs, notamment sur la forme, comme lorsqu'Emmanuel Macron a convoqué les chefs d'État africains à Pau, ou lorsqu'il est intervenu avec légèreté à l'université de Ouagadougou, en présence du président burkinabé. Cela a cassé le lien et ramené notre pays à un simple rôle d'homme d'affaires. Or, dans le domaine des affaires, eh bien, les Chinois, les Turcs, les Russes ne sont pas forcément plus mauvais que nous. Alors oui, la France a été chassée d'Afrique pour plein d'autres raisons également, mais le style choisi par l'actuel président est l'un des facteurs qui a contribué à ces départs en chaîne.
Merci Nathanaël. Le mercredi, c'est le cinéma en VO.
Moteur. France Inter.
And the Oscar goes to...
Un jour dans le monde.
Hey, baby!
Let's go home.
What?
Let's go.
Dad, why are you in such a good mood?
Because Drogtow is going to pay for everything.
Et vous nous emmenez cette semaine, Corinne Pellissier, en Grande-Bretagne, dans le Kent, région d'origine de la cinéaste Andrea Arnold, très remarquée à Cannes avec son film Bird, à l'énergie très rock, qui sort au cinéma aujourd'hui et qui réussit le tour de force de nous séduire avec du lait. C'est une critique sociale de l'Angleterre d'aujourd'hui, assez acerbe, assez crue et pourtant remplie de poésie et portée par des acteurs que vous avez trouvés désarmants, Corinne.
Voilà, petit round pour commencer de présentation. Oui. Bienvenue dans l'Angleterre de Bailey, adolescente métisse de 12 ans, élevée dans un squat par un père, Barry Cogan, qu'il a eu quasiment au même âge, s'apprête après 3 mois de relation à épouser dans la plus grande précarité sa nouvelle copine, et nourrit surtout le projet un peu fou de faire fortune grâce à la bave d'un crapaud magique sur lequel il souffle de la fumée tout en le diffusant très fort dans les oreilles de la musique. Alors autant vous dire qu'avec Coldplay, son choix de départ, ça marche moyen. Beaucoup mieux avec Fontaine D.C. qu'on entend en ce moment. C'est une atmosphère un peu loufoque qui crée une magie, une poésie qui va nous donner envie de suivre ces personnages, de croire en eux, d'imaginer pour eux, avec eux, un avenir meilleur, en dépit de leur quotidien d'immeubles insalubres, de précarité, parfois de violence, de familles dysfonctionnelles. André Arnold porte sur cette Angleterre délaissée pour compte un regard très tendre, peut-être parce que cette région qu'elle a décidé de filmer, eh bien, cette région du Kent, c'est celle qu'il a vu grandir, qui lui a donné envie très tôt de s'inscrire au cinéma dans une tradition à la Ken Loach et à sa fibre sociale.
André. We've got a long tradition of social cinema. You know, the class system is very...
Nous avons en Grande-Bretagne une longue tradition de cinéma social. C'est à cause des différences très marquées entre les classes sociales, des familles dans le besoin jusqu'au l'ordre. En tant que cinéaste, j'ai envie d'aller vers ce genre parce que ça me parle. Je connais bien le secteur, le maillage industriel au bord de l'eau, les forêts de cheminées le long de la Stour. Je sais ce que ça représente pour les gens. Ça me parle d'aller plus loin dans le récit. J'ai grandi dans un lieu très proche de celui que je décris ici, avec des familles où les parents sont très jeunes et ça ne choquait personne. Bien sûr, c'était difficile. Avoir des enfants très jeunes, c'est difficile. Et j'en ai vu beaucoup des familles comme ça. Mes parents aussi m'ont eu très jeune.
André Arnold, qui a aussi un vrai don pour filmer les marginaux et la jeunesse. Ouais, toujours au plus près de ses personnages, sans misérabilisme, avec souvent des comédiens non professionnels qui ne disposent que de très peu d'infos sur l'histoire ou sur le scénario. Les choses se font de manière très organique, avec une place toujours importante pour la bande-son, l'énergie très rock. On a parlé de Fontaine D.C., on peut aussi citer The Verve ou le groupe Blur. C'est une recette qui lui a valu jusqu'ici 3 prix du jury au Festival de Cannes pour Red Road, Fish Tank et American Honey en 2016. Elle avait à l'époque carrément loué un van pour embarquer une bande de jeunes dans un road trip à travers les États-Unis pour filmer au plus près la vérité de ces marginaux. Dans le cas de Bird, elle n'a pas choisi d'aller passer du temps dans un squat, mais s'est inspirée de ce qu'ont vécu les plus démunis pendant le Covid.
Je suis très perméable à l'actualité. Ce qui se passe dans le monde m'influence beaucoup. Ce film, j'ai commencé à l'écrire pendant le Covid, quand tous les bureaux étaient vides, qu'on n'avait pas le droit de sortir de chez nous. J'ai beaucoup pensé à ce moment-là, au SDF. Puisqu'on ne va pas au bureau et qu'à Londres, il y en a des tonnes, pourquoi ne pourrait-on pas leur permettre de s'installer dans ces grands bâtiments vides et de les transformer en squats ? Du coup, j'ai intégré l'idée au scénario. Bon, ça ne s'est pas fait. On n'a jamais trouvé le bon bâtiment pour installer le tournage. On s'est rabattu sur un autre lieu, mais mon intention était claire. Je voulais montrer que la vie, parfois, oui, elle est difficile, qu'on peut être criblé de dettes, mais qu'avec un peu d'imagination, prenez par exemple les graffitis du film, moi je les trouve sublimes, je les adore. Si on veut bien changer de perspective, la beauté, en fait, est partout. En tout cas, moi je la vois partout, dans les moments sombres et précaires, comme chez les gens, parfois animés de mauvaises intentions, mais qui peuvent aussi se montrer très beaux, très purs. Je n'essaie pas du tout d'emballer une histoire, mais de montrer plutôt avec honnêteté ce que je vois.
Et ce monde, on le voit à travers les yeux donc de Bailey, la caméra de son téléphone portable, et aussi à travers l'amitié un peu étrange qu'elle a nouée avec un homme oiseau, Bird, qui donne son nom au film et apporte une jolie touche fantastique qui fonctionne très bien.
Andrea Bird d'André Arnold, c'est donc au cinéma ce mercredi et c'est un film France Inter. Merci Corinne Pellissier, vous revenez mercredi prochain pour le cinéma en VO.